Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, je suis sur un petit nuage. Non seulement nous recevons un grand écrivain, Philippe Génada, mais en plus cet écrivain est le roi de la digression et il n'y a rien que j'aime autant dans l'existence que la digression. Je me disais ça ce matin en faisant le plein d'essence porte de Saint-Cloud, juste à côté de Boulogne-Billancourt, où se trouve la clinique du Belvédère, où j'ai vu le jour il y a bien longtemps, même si l'expression « voir le jour » n'est pas tout à fait appropriée, vu que c'était la nuit, comme celle que retient Johnny dans la chanson éponyme et dont il s'apprêtait à enregistrer une nouvelle version, pour les 75 ans qu'il ne fêtera donc jamais et qu'il avait rebaptisé « Retiens-toi la nuit ». Quel procès en perspective d'ailleurs que celui de l'héritage Johnny qui alimentera aussi bien la colonne potin du journal Voici, que notre invité connaît bien, non pas en tant que victime mais en tant que rédacteur, que l'inspiration d'un écrivain qui pourrait être lui et qui ne saurait rester insensible à une matière première d'une telle richesse. Je dis ça, je ne le lis que rarement, Voici, hein, pas mon invité écrivain, et évidemment comme tout le monde, dans la salle d'attente de mon médecin traitant ou chez Jean-Claude, mon coiffeur capillicule visagiste, qui au passage est en pleine déprime après la disparition de Kiki, son teckel à poil dur qu'il avait adopté en 2004. Oui, j'aime beaucoup les digressions.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Bonjour Philippe Génada.
Bonjour Antoine Decaune.
Bonjour, bienvenue dans notre studio. Au menu de Popopop, vous et uniquement vous. Ça vous fait comme programme ?
Ça me fait plaisir, ouais, mais alors ça commence bien. Alors bravo la prouesse d'acrobate là.
À mes côtés, Charline Roux et uniquement Roux. Ça vous va, Charline aussi ?
Toujours pas. Bonjour Antoine, bonjour Philippe.
Bonjour Charline.
Voilà pour le menu de cette spéciale Philippe Génada. Donc, je laisse quand même à un autre auteur brillant lui aussi, et prix Renaudot 2017, le soin de lancer cette émission.
Je suis Olivier Guez et j'écoute Pop 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 dans ma baignoire.
C'est mon pote Olivier Guez.
Je sais bien que c'est votre pote.
J'adore.
Vous l'écoutez où, vous, Popopop, si vous l'écoutez, bien sûr.
Très bizarrement, depuis 12 ans, j'écoute plus la radio.
Ah, c'est pas bien ça.
Non, c'est vrai. Ouais.
À Philippe Génada, on va vous convertir aujourd'hui.
J'ai France Info à mon radio réveil, qui m'a été douloureux ce matin.
Ouais.
Mais sinon, j'écoute plus la radio. Mais ma femme, oui, dans la cuisine.
Dans la cuisine. Bon, dans la cuisine, dans
vous
la baignoire.
Vous allez vous abonner au podcast ?
Exactement, c'est ce que je vais faire tout à l'heure.
Dans des douches italiennes, peu importe, Popopop, c'est parti. Philippe Génada, ici, il existe une question encore plus stressante que quelqu'un qui lit derrière votre épaule, et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ?
La pop culture... c'est tout ce que j'aime.
Ouais.
Alors c'est une question difficile, je sais pas, pour moi, si je réponds comme ça spontanément, c'est de la lumière, la légèreté et des trucs graves et tristes en dessous. Donc c'est exactement ce que j'aime. Mm-hmm. Des chansons qui ont l'air... c'est surtout de la musique pour moi, la pop culture, mm-hmm. Que je n'écoute plus non plus d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années.
C'est
bizarre, j'ai les oreilles qui faiblissent. Tout ce qui a un rapport aux oreilles, ça ne me concerne plus. C'est de la musique, ouais, pour moi, et voilà, c'est de la musique scintillante, tourbillonnante, mais avec des courants lourds sous la surface.
Très bien, voilà une définition qu'elle me convient. Philippe Génada, si vous n'écoutez plus de musique depuis 20 ans, vous avez peu de chance de connaître ce groupe, il s'appelle Queens of the Stone Age, mais Charline Roux, elle, les adore.
Oui.
Alors, on lui fait plaisir avec
Merci.
Ce morceau, Fortress.
Keep your feelings locked away. Is it easier? Does it make you feel safe? Wander through the darkness of wilderness behind your eyes. I know you're afraid, but you gotta move.
And come through.
Les Queens of the Stone Age, Fortress, c'est extrait de leur dernier album Villains. Elle est contente, la Charline Roux, là ?
Elle est très contente, elle leur remercie.
Bon, ben, de rien. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Génada. Mais qui êtes-vous pour mériter une émission spéciale aujourd'hui ? Réponse avec votre pop portrait. Alors, votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux, Roux, Roux.
Aujourd'hui, nous recevons un homme qui aurait tout à fait sa place dans la série Cold Case. Vous savez, cette série américaine dans laquelle une équipe de la police de Philadelphie est en charge des affaires non résolues et dont certaines datent de dizaines d'années, voire de cinquantaines d'années auparavant. Bah là, c'est la même chose, mais entre Paris 10 et le Périgord. Une enquête qui amène aujourd'hui parmi nous un limier hors pair doublé d'une plume des plus réjouissantes et affûtées dont il fait démonstration depuis le chameau sauvage jusqu'à la serpe en passant par Néfertiti dans un champ de canne à sucre, la petite femelle, ce lac ou encore plage de Manacora. 16h30, il décrit, raconte avec la même virtuosité sa vie que celle plus accidentée, voire criminelle des autres. Nous sommes ravis d'accueillir celui que le Figaro décrit, je cite, comme Pierre Bellemare élevé au rang des beaux-arts, Philippe Génada, que perso je voyais plutôt en Philippe Marlowe, enfin plus goguenard et contemplatif, mais après tout, comme c'est vous l'invité, c'est vous qui choisissez.
Je vais prendre Philippe Marlowe.
Je vous en remercie.
Plutôt Pierre Bellemare, c'est étrange.
Non, c'est mon idole.
Cold Case, vous y avez déjà pensé à ça ?
Oui, en tout cas, c'est ce que je fais hein, depuis
trois livres,
ouais, c'est-à-dire 5 ou 6 ans. Oui, c'est ce qui m'intéresse, mais aussi c'est par défaut, c'est-à-dire que je me suis souvent posé la question parce que là, depuis un livre ou deux, dès que je vais dans une librairie ou un salon du livre, les gens m'apportent des enquêtes. Quoi. Je dis, j'ai un truc pour vous. J'ai reçu un mail là d'une dame qui me dit, écoutez, c'est une bouteille à la mer. J'ai lu vos livres, je sais que vous pouvez m'aider. En 1803, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère a été accusée d'avoir empoisonné l'homme chez qui elle travaillait comme domestique. C'est une injustice. Voilà, c'est ma dernière chance. Vous êtes ma dernière chance. En 1803, j'ai déjà... Et donc, je me demande souvent... Moi, j'ai envie de parler du présent, c'est-à-dire des hot cases, ou je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que ça change ma position, en fait. C'est-à-dire que je... Moi, ce que j'aime, c'est me mettre un peu à l'écart, observer et raconter. Sur un truc de maintenant, genre, je sais pas... du pont de Ligonnès, ou
exemple,
même le petit Grégory, disons. Je me mets un peu à l'écart, j'observe, je raconte, mais quand le livre sort, ça agit sur la vie. C'est-à-dire que si je trouve des trucs, je suis plus juste un raconteur, un observateur, je deviens un acteur, et ça, ça me va pas. Donc l'avantage des cold cases, c'est qu'ils sont cold.
Absolument. Mais c'est marrant parce qu'en parlant avec vous, ça me fait repenser que dans mon histoire, dans l'histoire de ma famille, il y a une histoire criminelle.
Eh ben, je vais m'en charger,
oui,
Antoine.
J'ai une arrière-grand-mère qui avait la cuisse légère et qui a eu une aventure avec un juge d'instruction qui s'est fait tirer dessus par l'époux outragé.
Ah bon ?
Mais oui.
Qui s'est fait tirer dessus, le juge ou votre arrière-grand-mère ?
Non, le juge, oui. Ah oui. Le juge, l'amant. Et du coup, y a un doute sur les filiations à la suite de cette histoire. Donc, si vous voulez bien, on en reparlera juste après l'émission.
Avec plaisir, dès que d'accord. Je rentre.
Mais moi, je veux suivre. Hein.
Bon, je tourne la page du livre géant de la pop culture, car c'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé, Philippe Génada, de choisir un livre, un film, une musique, une série et un jeu vidéo. Pour le livre, vous choisissez Jacques le Fataliste, écrit par Denis Diderot, paru entre 1778 et 1780. Un livre qui raconte l'histoire de Jacques, voyageant en compagnie de son maître et possédant une personnalité plus complexe que celle d'un valet de comédie. Il est bavard, mais aussi quelque peu philosophe, et c'est à son fatalisme qu'il doit son surnom. Pour combler l'ennui, il promet à son maître de lui raconter la suite de ses aventures amoureuses. Écoutons Guillaume Gallienne nous lire les premiers mots.
Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe. D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Où allait-il ? Mais est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut.
Vous êtes un gros lecteur, Philippe Génada.
Oui, je suis gros, gros.
Enfin, gros, je me comprends. C'est un
lecteur costaud, enrobé.
Lecteur costaud, voilà. Ce livre-là est un livre fondateur pour vous. J'ai même lu que vous le relisiez régulièrement.
C'est le seul livre que je relis. Alors, quand on m'a demandé, en fait, un livre culte. Alors, livre culte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est le seul livre que je relis assez régulièrement. Pas toutes les semaines, hein, mais tous les 5-6 ans. Ou en tout cas, dès que j'ai un petit coup de faiblesse. Parce qu'on parle de pop, mais alors c'est un livre qui est écrit en 1740 ou quelque chose comme ça.
78, oui.
Voilà, merci. C'est le livre le plus pop que je connaisse. C'est-à-dire que c'est un livre, comme vous disiez tout à l'heure, le but du livre, c'est Jacques qui doit raconter comment il a passé une jarretière à la belle Denise. Mmh. Et on parlait de digression, il y en a sans arrêt, il nous emmène de tous les côtés. Diderot, à un moment, pile vraiment le moment le plus crucial, Diderot écrit, lui, en tant que Denis Diderot, « Je suis fatigué, pardon, je souffle ma bougie, je vais me coucher, on reprendra demain. » Enfin bon, c'est un livre d'une modernité absolument incroyable. Moi, certains me reprochent mes digressions. Mais alors là, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est absolument lumineux. Et c'est d'une liberté que moi, j'essaye toujours de retrouver. C'est un livre, si on le publiait maintenant, les éditeurs seraient, non seulement tomberaient à la renverse, et puis refuseraient de le publier, surtout, je pense.
Est-ce que vous parlez de digression, vous avez lu San Antonio ?
J'ai lu un peu, oui, quand j'étais, quand j'avais une vingtaine d'années, ouais, j'en ai lu quelques-uns, et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse et ce que je cherche, c'est ce truc de liberté de faire vraiment ce qu'on veut. Alors après c'est bien ou c'est pas bien, c'est une autre histoire, mais moi je me rends compte que dans ma vie, dans mon existence, le seul domaine où je suis entièrement libre, mais vraiment entièrement, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'avec ma femme ou avec mon fils, tout se passe très bien, mais on n'est pas complètement libre. Dans la rue, ici, si tout d'un coup j'ai envie de me mettre tout nu et de monter sur la table en poussant des cris, oh non, ça ne marchera pas. Regardez, Charline, elle me regarde d'un œil bizarre.
J'ai mon mot à dire,
ouais, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Alors dans la littérature, oui, mais il faut essayer de l'être, parce qu'évidemment, quand on écrit, on pense quand même aux lecteurs, aux journalistes, aux critiques, etc. Mais mon but, c'est de tendre en tout cas vers ça.
Bien, alors passons au film. Pour vous, c'est Opening Night, réalisé par John Cassavetes, sorti en 1977. Le film raconte l'histoire de Myrtle Gordon, une actrice de théâtre reconnue. Et à l'issue d'une répétition, elle assiste à la mort d'une admiratrice hystérique, renversée par une voiture alors qu'elle regardait son idole s'en aller. La comédienne est bouleversée par cet incident. La pièce qu'elle doit jouer prochainement, dans laquelle elle interprète une femme qui a perdu sa jeunesse. Et ce décès la plonge dans un désarroi terrible. Petit bout de bande-annonce.
They wanna be loved. They have to be loved. The whole world. Everybody wants to be loved.
Avec Jenna Rollands, évidemment. Alors pourquoi Opening Night plutôt que Camping 3 ?
C'est étonnant comme alternative.
Mais j'ai hésité, forcément, j'ai hésité. Hein. Pour plein de raisons, parce que Cassavetes et Jenna Rollands, c'est un couple qui me fait fondre, quoi. Jenna Rollands, j'adore. J'aime tous les films de Cassavetes. Celui-ci en particulier, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a ce mélange dont je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, pour la pop culture. C'est-à-dire que c'est un film vraiment grave, sombre, triste. C'est deux personnes, lui et donc Jenna Rollands, qui doivent jouer une pièce ensemble et qui ont beaucoup de mal parce que c'est très tendu entre eux et puis pour chacun d'eux. Et à la représentation de cette pièce, ils se mettent à sourire. Il y a un truc d'une sorte de sourire dans la dégringolade, dans le désespoir. Il y a une scène où ils doivent se prendre le pied, où ils rigolent, ils ont un fou rire sur scène. Voilà, moi c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire c'est le mélange de... Et ça rejoint le truc de fatalisme, c'est-à-dire que moi je pense que je suis fataliste, mais on entend souvent fataliste, genre tout va mal se passer. Mmh, non. C'est-à-dire que...
Résigné.
Voilà, résigné, mais résigné gaiement, quoi. Gaiement, ouais. Résigné, c'est comme ça, c'est bien. Et dans beaucoup de films de Cassavetes, il y en a un autre qui s'appelle Shadows, qui est son premier film. Il y a une scène entre un chanteur et son impresario. C'est la déroute pour eux, ils n'arrivent pas à trouver des contrats. Ils s'engueulent, ils sont sur le point de se séparer. Et tout d'un coup, le chanteur dit à l'impresario, calme-toi, je pense que tu es le meilleur impresario de la planète. Et tout d'un coup, l'impresario, il s'arrête, il a une sorte de sourire, de demi-sourire. C'est, voilà, moi, ça symbolise tout ce que j'aime et qui est dans presque tous les films de Cassavetes.
Bien. Passons à la musique. Alors, la confirmation, effectivement, que vous n'écoutez plus de musique depuis 20 ans, parce que vous avez choisi un morceau de Tom Waits, mais un morceau de 1976. Écoutez.
Waltzing Matilda, waltzing.
Waltzing Matilda de Tom Waits, sorti en 1976, donc sur l'album Small Challenge. Vous écoutiez déjà Tom Waits en 76?
En 76, j'étais encore un peu petit, mais quand j'ai arrêté d'écouter de la musique, c'est parmi les derniers que j'écoutais très souvent, et dont cette chanson qui me... Enfin, c'est assez bouleversant, c'est quand même... Et puis surtout, c'est intriguant, on comprend rien en fait. Ouais. On sent qu'il y a un type qui va pas bien, qui est un peu perdu... Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai longtemps pensé que ce qui me touchait dans cette chanson, c'est qu'au milieu de son désarroi, de son errance, il veut aller valser avec une Mathilde. Je me disais, alors j'imaginais que c'était une sorte de souvenir qu'il avait, auquel il se raccrochait. Et puis quelques années plus tard, j'ai cherché, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est une chanson australienne traditionnelle, Waltzing Matilda, qui raconte l'histoire d'un mec qui erre, justement un journalier qui va de ferme en ferme pour essayer de trouver du boulot, qui est un peu paumé, qui a quitté sa famille, je crois, pour aller gagner de l'argent à travers le pays, en Australie, et dont le seul réconfort est une couverture. Le soir, quand il trouve pas de ferme où dormir, il dort par terre, et il a une couverture, et comme c'est son seul réconfort, sa seule chaleur, il lui a donné le prénom de, sans doute, de sa bien-aimée, j'imagine, Mathilda. Et dans la journée, il la roule, il la porte sur son épaule, et donc ça balance. Ça valse, quoi, ça bouge. Donc, Waltzing Matilda, que moi je voyais comme un souvenir romantique, un truc de ça. En fait, c'est une couverture qui tape contre le mec quand il marche. Mais du coup, bah, voilà, c'est, je crois que cette chanson, elle me touche encore plus. Et puis, j'imagine, il a écrit ça, il était à Copenhague, il était bourré tout le temps, il savait plus où il était, enfin bon. Voilà, il y a quelque chose qui me met, encore une fois, il est dans une situation, il est perdu en Europe, c'est la première fois qu'il va en Europe. Il va de bar en bar, il est désespéré. Mais je ne sais pas, dans cette chanson, je trouve qu'il y a quelque chose de, quand même, de, allez, c'est la vie, c'est comme ça.
Et vous avez dû vous identifier à la voix, j'imagine. Vous avez un peu le même genre Ah oui, quand même.
Une très jolie version, si mes souvenirs sont bons aussi, de par les Pogues.
Oui,
ça ne me dit rien.
Bon. Comment ça ne vous dit rien?
Bah non.
Enfin,
pardon.
Charlie, non. Ensuite, pour la série, vous choisissez Les Sopranos, série créée par David Chase et diffusée entre 1999 et 2007 sur HBO. Ghislain Fontana me fait des grands signes en régie, me disant « Mais reprends quand tu veux là-dessus. » Moi, je peux l'écouter infiniment, ce générique.
Et partir immédiatement.
Ah, mais je l'adore. Je l'adore. C'est, ça y est, je décolle immédiatement. Alors, c'est,
on nous amène des meatballs.
On se souvient des Sopranos. Hein, c'est une série qui met en scène les difficultés que rencontre le mafieux Tony Soprano à concilier les intérêts de sa famille et ceux de l'organisation criminelle qu'il dirige. Et qu'est-ce qui vous a tellement plu dans, dans les Sopranos ?
Je suis en train de me rendre compte, je vais toujours dire pareil. Quand on m'a demandé la série, le livre, etc., j'ai répondu instinctivement ce que j'aimais. Et puis les Sopranos, c'est aussi parce que je dois pas être le seul à avoir dit ça. Enfin, j'imagine, c'est vraiment une série un peu fondatrice. Quoi. Ouais. C'est, voilà. Et moi, c'est la première que j'ai vue à laquelle je me suis accroché avant d'en voir plein d'autres. Mais je me rends compte que ce qui me plaît, ben voilà, c'est le personnage de Tony Soprano, James Gandolfini, qui a l'air d'un bon gars, un bon ours qu'on a envie de prendre dans ses bras et tout, qui est quand même un boss de la mafia, qui fait des trucs... voilà, et ben c'est toujours, moi, cette association entre le sombre et le clair, ou entre le lourd et le léger, qui me... Et puis alors, ce qui est touchant aussi, c'est dans la série, on a vraiment... On l'aime bien, ce gars-là, on n'est pas sûr de vouloir le rencontrer, mais... Et puis, on aime bien l'acteur, et il est mort... de la même manière que dans la série. C'est-à-dire, dans la série, il a des malaises tout le temps, il a des... Et puis, on a peur qu'il meure pour... Bon... Et puis il est mort, je crois, en Italie, hein, en vacances avec sa femme. Il est tombé, boum, jeune, il est tombé, il est mort. Donc, bah voilà, moi, ça me touche, on n'a qu'à dire tout ça.
J'étais un fan ultime de James Gandolfini.
Ah,
ouais, vous savez que je l'ai croisé au Bon Marché à Paris.
Oh non.
Oui, il y a des escalators qui montent et d'autres qui descendent. Ouais. Je montais pendant qu'il descendait. Je l'ai regardé avec des yeux comme ça ouverts, comme un môme.
Il s'est retourné vers
moi. Non, non, il s'est retourné vers moi et il m'a fait « Yes, it's me ».
Oh, la classe.
C'est drôle.
Oh, bon, j'arrête l'anecdote. Et enfin, nous vous avons demandé un jeu vidéo. Et là, vous nous avez répondu, je cite, « Je me suis arrêté il y a 35 ans avec Space Invaders, célèbre jeu japonais développé en 78. Replongeons-nous quand même dans l'ambiance de Space Invaders. »
Petit oui.
Voilà. Mais rien de mieux depuis, hein.
Non. Ben non, mon fils a joué un peu aux jeux vidéo, mais moi j'arrive pas, je suis nul, ça m'énerve, j'arrive pas à me coordonner sur la manette.
Mais même les jeux d'enquête?
Ben ça j'aimerais bien, mais j'ai jamais essayé. Ouais, mais ouais,
j'en ai à vous conseiller si vous voulez.
Lequel par exemple?
Elle est noire.
Elle est noire. Elle est noire.
L.A. comme Los Angeles.
Ah, elle est Los Angeles.
Los Angeles, Los Angeles Black.
Ok, très bien.
Serré, Charline. Alors.
Merci, Charline.
Voilà. Je vous en prie.
Alors, je résume. Jacques le Fataliste, Opening Night, Tom Waits, Les Sopranos, Space Invaders. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Waltzing Matilda with me.
They want to be loved. They have to be loved.
Now the dogs are barking.
Comment s'appelait-il?
The taxi keeps parking.
Que vous importe.
A lot they can do.
D'où venait-il? Du lieu le plus prochain.
Everybody wants to be loved.
Comment s'était-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde.
Et voilà un petit shooter de pop culture.
C'est tout moi.
Ben oui,
ça, ça me résume. Alors.
C'est tout vous, Philippe Janeda. Philippe Janeda, vous citiez Tom Waits, mais est-ce que vous aimez Bob Marley aussi?
Ah ouais, bah j'ai bien écouté Bob Marley ouais, quand j'avais 16-17 ans. Ouais.
Mm-hmm. Bien.
Pourquoi?
Bah parce qu'on va passer de Tom Waits à Bob Marley, c'est ça la pop culture. Et on va écouter I Shot the Sheriff. C'est dans Pop, Pop, Pop.
I Shot the Sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh.
Yeah. All around in my hometown, they're trying to track me down. Yeah. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy. For the
Bob Marley, I Shot the Sheriff dans Pop 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 sur France Inter, car oui, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission qui traite la culture de façon... Et aujourd'hui, notre invité, c'est Philippe Janeda, Génada pour son dernier roman, La Serpe. Alors avant toute chose, Philippe Génada, sachez que vous avez été précédé sur ce siège par un formidable ambassadeur, en la personne de Patrice Lecomte, qui nous expliquait lors de sa pop-liste à quel point il aimait votre travail.
Ce que j'ai tant aimé, c'est que c'est un auteur, Philippe Génada, à qui je fais confiance. C'est-à-dire que dès qu'il publie quelque chose, j'achète, je lis et j'adore. Parce que j'aime son écriture, j'aime son inspiration, j'aime sa manière de faire toujours un petit pas sur le côté. J'aime ses parenthèses goguenardes, j'aime son humour qui se glisse entre lignes. Et puis j'ai aimé cette histoire qui raconte quand même une c'est pas une enquête policière, c'est pas un polar, c'est vrai. Le fils est forcément le seul suspect possible.
Arrêtons-nous juste un instant sur les pas de côté.
Oui.
Les pas de côté, vous en faites beaucoup, notamment dans La Serpe, vous vous déplacez énormément. Est-ce que la littérature, c'est devenu pour vous une forme de pratique sportive?
Oui, à l'intérieur d'une voiture, je me déplace, mais...
Vous marchez aussi?
Oui, je marche un peu, je marche là, dans Périgueux, en l'occurrence. C'est-à-dire que moi, je suis tellement immobile, normalement, je quitte tellement pas mon quartier, que pour moi, louer une voiture, aller à Périgueux, mais c'est comme si quelqu'un vous dit, je vais prendre un vélo, je vais à Grosny, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Et donc... ouais, c'est un moyen de me déplacer de manière un peu plus sérieuse. J'aime bien marcher aux mêmes endroits que les gens dont je parle. Par exemple, là, je suis assis sur les genoux de Patrice Lecomte.
Et ça fait quoi? On va aujourd'hui parler de La Serpe avec passion et détachement. Passion parce qu'on a adoré le livre et détachement parce qu'il est sorti depuis quelques mois, qu'il a été primé, que c'est un best-seller, ce qui vous soulage dans du côté promo et nous dispense de questions à la con, enfin, quoique. La promo dont vous ne raffolez pas, si on a bien compris.
Ah si, pourquoi?
Il n'y a pas une forme de lassitude?
Ah oui, là, c'est-à-dire que là, c'est sorti mi-août, ça fait quand même 7 mois. Donc non, évidemment, c'est agréable, ça fait plaisir, c'est tout ce qu'on veut, sauf que 7 mois, tous les week-ends, et puis 3 fois par semaine, soit de fantastiques émissions de radio comme ici, soit des choses un peu plus difficiles. Mais en revanche, il y a un truc qui se passe, c'est que je crois que ça fait pareil pour tout le monde, hein, c'est que on se met instinctivement à répondre les mêmes mots, mais vraiment les mêmes mots.
Ouais. Là, il y a... éléments de langage, ça s'appelle.
Voilà. Et puis alors du coup je m'entends parler, il y a 2 semaines j'ai fait un dîner, c'est des femmes qui organisent à Paris des dîners littéraires, et donc voilà, on dîne et puis après je parle de mon livre. Et je me rends compte pendant que je parle que je vais ailleurs, c'est-à-dire je pense à autre chose, je sais plus à quoi je pense, mais je continue à parler avec grâce.
Donc vous digressez dans votre tête là pour le coup.
Et tout d'un coup la dame me dit « Oh non, là vous exagérez !» Et je ne sais pas du tout pourquoi elle m'a dit ça, je ne sais pas ce que j'ai dit.
Mais en fait, votre vie se partage en deux, Philippe Génada, parce que soit vous vivez absolument reclus et vous écrivez, soit vous sortez pour parler de votre écriture. Mais où est-ce que vous en êtes là, aujourd'hui?
Eh bien là, justement, alors je vais pas très bien, si je peux faire une confidence, je suis un peu dans un truc un peu mou, un peu gris, parce que justement, je suis entre les deux. Je suis plus, normalement, vraiment, je suis plus dans la promo, entre guillemets, de La Serpe, et j'arrive pas encore à m'enfermer pour me mettre au suivant, parce que voilà, j'ai encore des activités qui ont un rapport avec La Serpe. Donc je suis entre les deux, comme entre deux saisons. En plus, on est entre deux saisons, ce qui est donc là vraiment, c'est-à-dire j'ai un pied d'un côté, un autre de l'autre.
Votre sujet?
J'ai mon sujet.
Ah, alors, c'est déjà pas mal.
Oui, j'ai mon sujet, mais il faut que c'est un truc qu'il faut vraiment que je travaille dur. C'est très compliqué, c'est un cold case terrible.
Vous pouvez en dire un mot?
Eh ben non.
Ah non, top secret.
C'est un rapport avec votre famille, je crois, une histoire de juge et
mon arrière-grand-mère.
Ouais, un coup de feu malencontreux.
Ok, alors vous menez la vie d'un écrivain tel que tout le monde la fantasme, hein, l'ours qui vit dans sa tanière et mène une existence totalement ritualisée, sauf que l'écrivain que vous êtes est tout à fait opposé au travail de l'imagination. Ce qui vous intéresse, vous, c'est le réel, votre propre expérience de l'existence, ou maintenant celle des autres. Pourquoi avez-vous décidé, avec vos 3 derniers livres, d'aller voir du côté des histoires criminelles?
Alors,
j'insiste sur le mot criminel.
Oui. Alors d'abord, je suis allé voir du côté des autres, parce que moi, mes 7 premiers livres parlent plus ou moins de ma vie, comme vous disiez. Et ma vie maintenant est devenue tellement routinière, tellement monotone.
Moi, il n'y a plus rien à dire sur votre vie.
Rien. Enfin si, j'ai oublié le PQ à Franprix.
Il y en a qui en font des chansons, hein. C'est pas.
Ouais, mais un livre.
Christine Angot vous en fait un livre.
Ouais, un petit livre sans grand intérêt, mais bon. Bref, voilà. Et donc j'ai plus rien à raconter sur moi, donc je me dis je vais parler des autres. Il y en a plein d'autres, donc c'est inépuisable. Et les affaires criminelles, c'est pour une raison. D'abord, j'aime bien ça. Hein, soyons honnêtes, je lis plein de polars, je regarde les émissions, j'en fais entrer l'accusé, tout ça. J'aime bien ça, mais c'est pas vraiment la vraie raison. La vraie raison, c'est que quand il y a une affaire criminelle, comme je vais me pencher sur votre arrière-grand-mère, il y a enquête forcément. Et quand il y a enquête, ça veut dire qu'il y a des gars comme mes assistants qui sont les gendarmes, les policiers, les juges d'instruction, qui ont fait tout le boulot. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir tout le monde. Là, on prend par exemple Henri Girard dans mon dernier livre. J'ai, je sais pas moi, 150 témoignages. Et moi, je prends ça, c'est une matière première.
Ce personnage, Henri Girard, dont vous parlez dans La Serpe, hein, qui est donc le coupable tout désigné d'un triple homicide, c'est un personnage en plus, pour le moins très très romanesque. C'est la troisième fois après Sulac, qui était braqueur de bijouterie, et La Petite Femelle, qui était basée sur l'histoire de Pauline Dubuisson, une étudiante condamnée à perpétuité pour avoir tué son amant. Troisième fois que vous intéressez à un accusé, vous aimez les personnages au passé trouble. La première question, c'est est-ce que vous voulez vous allonger et en parler? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois personnages?
Alors, je veux bien m'allonger en parler. Et ce qu'ils ont en commun, je me rends compte plusieurs choses. En réalité, j'ai l'impression, je crois que c'est vrai, de choisir par hasard. C'est-à-dire qu'on me parle d'un truc,
ça et vous
je
tombe dis, dessus.
Voilà, ça me tombe dessus. Mais quand je regarde avec un peu de recul, c'est souvent d'ailleurs des lecteurs qui me le disent, ils se ressemblent en fait. Les deux premiers se ressemblent parce qu'ils ont une vie courte, malchanceuse, alors qu'ils avaient toutes les cartes en main. Ils étaient beaux, intelligents, drôles, tout ce qu'on veut. Et des personnages qui dégringolent. Alors les deux premiers sont morts très jeunes, Bruno Sulac et Pauline Dubuisson. Henri Girard, non, il est mort à 70 ans, mais quand même à 24 ans, il est arrivé ce truc de ce triple crime. Et à partir de là, sa vie a été vraiment, vraiment bancale, et à la fois au niveau de la justice, c'est-à-dire des tribunaux, et puis de l'opinion publique. C'est-à-dire c'est des gens sur qui tout le monde a jeté un regard noir et haineux. Et voilà, je suis pas un redresseur de tort, mais c'est quelque chose qui me touche et j'aime bien Pauline Dubuisson, c'est l'exemple parfait. Pauline Dubuisson était la femme la plus détestée de France dans les années 50. Tout le monde lui hurlait dessus, lui vomissait dessus. Et il suffit de gratter un tout petit peu, pas très profondément, pour se rendre compte que c'était une fille bien, quoi, que c'était plutôt quelqu'un de bien et de simple et avec de bonnes intentions.
Henri Girard a été jugé en 41 et acquitté, hein, l'issue de quelques jours de procès, d'une plaidoirie admirable de 2 heures et d'une délibération de 8 minutes avec un personnage clé, c'est son avocat Maurice Garçon, que vous qualifiez de meilleur avocat de tous les temps. Écoutez-le donner sa définition de la justice.
La justice doit assurer la paix sociale. Elle doit éviter les conflits particuliers. Elle doit, d'une part, en assurant la paix sociale, punir ceux qui ont enfreint la loi. Elle doit, d'autre part, lorsque ce sont des discussions purement d'affaires ou de commerce, faire dire par les juges qui a tort et qui a raison.
Et c'est en écoutant Maurice Garçon à la radio, c'était même sur France Culture, en 2004, dans une émission qui s'appelait « Le vif du sujet », que vous avez eu le déclic, si mes informations sont bonnes, et c'est en écoutant exactement ça.
Henri Girard est un garçon intelligent, d'après ce qu'affirment les experts. Alors, comment peut-il être assez idiot pour perpétrer un crime là où tout le désignerait comme le meurtrier présumé? Je ne m'adresse qu'à votre raison. Soyez juste. Et cette justice, messieurs les jurés, votre justice, se doit d'être éclatante et honnête. C'est pour cela que je vous demande d'acquitter Henri Girard et de lui redonner son honneur. Le procès d'Henri Girard est terminé. Mais j'en prends ici l'engagement. L'affaire commence.
Alors ça, c'est pas Maurice Garçon.
Non, c'est une reconstitution.
C'est un acteur.
Oui. Mais ce genre d'avocat, extrêmement brillant, pour vous, quand vous entendez le genre de plaidoirie qu'il a produit, est-ce que c'est un facteur incriminant pour Girard ou au contraire?
Alors là, c'est très particulier ce procès, parce que Maurice Garçon, je pense, était un homme droit, loyal, etc., dans la vie, mais dans un tribunal, il était vraiment prêt à tout. Et là, il a fait un numéro de fourberie pour faire acquitter Henri Girard, mais vraiment, c'est allé même loin, c'est-à-dire qu'il y a même eu des échanges avec le président du tribunal, de lettres, etc. Ça, il a triché. En gros, il a triché pour faire acquitter Henri Girard. Et il a embrumé tout le monde, mais vraiment avec des trucs, des arguments, vraiment à gros sabots, quoi. Mais ça a marché. Effectivement, c'est pas très juste, on n'a qu'à dire, que Henri Girard a été acquitté, sauf que c'était à raison, à juste titre, puisque sans Maurice Garçon, sans la fourberie de Maurice Garçon et le talent, Henri Girard, on lui aurait coupé la tête.
Voilà la bonne nouvelle. La petite pause dans cette conversation avec vous, Philippe Génada. Une question d'ordre pratique, est-ce que vous savez faire ça? Parfait, c'est pour lancer les pop prévisions.
L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots.
Vers l'infini et au-delà.
Oui. Oui, et même largement au-delà, et je ne parle pas de ce mix hasardeux, au-delà des prévisions estivales annoncées, puisque ça y est, Pixar vient d'annoncer une date de sortie probable pour le très attendu Toy Story 4. Le retour de Buzz, Woody, Jessie et toute la bande est prévu le 26 juin 2019.
Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur.
C'est à la fin de l'été que les amateurs d'espionnage pourront retrouver Jack Ryan, agent de la CIA, né de l'imagination fertile de l'écrivain Tom Clancy, et devenu star de ciné sous les traits d'Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine, respectivement dans À la poursuite d'Octobre Rouge, Jeux de guerre, La somme de toutes les peurs et The Ryan Initiative. Jack Ryan aura désormais les traits de John Krasinski dans une série qui relatera les aventures du jeune analyste de la CIA, le tout par les créateurs de Lost.
There is little we cannot do to assure the survival of liberty.
Jack Ryan.
There must be some common way out of here.
It will not be easy.
Said the Joker to the thief.
We will face challenges.
And even in the toughest times, we lift our eyes to the broad horizon ahead.
Let's not forget that freedom is more powerful than fear.
Jack Ryan, ça arrive sur Amazon Prime le 31 août.
Et on continue notre tournée des festivals de l'été avec un arrêt du 5 au 8 juillet à Belfort pour les Eurokéennes, 30e édition à l'affiche. Liam Gallagher, Nine Inch Nails, Macklemore, Beth Ditto, FFF, Super Organism et eux. Queens of the Stone Age à l'affiche des Eurokéennes de Belfort, ce sera du 4 au 8 juillet.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Tom Waits.
Merci Charline. Philippe Génada, ne bougez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 17h et tout de suite j'ai envie d'écouter les Beatles. Eh ben alors on écoute les Beatles et Bulldog.
When you smile, childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. You're lonely, you can talk to me. Measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
What do you say?
I say,
you know anymore.
Les Beatles, Hey Bulldog, c'est un morceau de 1969. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Génada pour cette spéciale Philippe Génada. Philippe Génada.
Il est bien ce titre.
C'est très bon titre. Vous attaquez donc avec la serpe à la folle et sordide histoire vraie dite du triple assassinat du château d'Escouart. Un matin d'octobre 41, au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours. Dans la nuit, son père, sa tante et sa bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant, l'unique héritier, et donc le coupable tout trouvé de ce triple homicide, puisque l'arme du crime est une serpe qu'il a empruntée quelques jours avant. Donc, un fait divers dont vous avez pris connaissance de manière détournée, puisque c'est l'un de vos amis qui vous demandait depuis plusieurs années de vous intéresser à l'histoire de son grand-père, Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur. Est-ce que j'ai bien tout résumé ?
C'est parfait.
Il n'y a rien à ajouter.
Il n'y a absolument rien à ajouter. Passons à autre chose.
Mais précisons que c'est la même personne, Arnaud et Girard.
Oui, il s'appelait Henri Girard. Il a écrit le Salaire de la peur quelques années après le crime, parce qu'il a été acquitté, mais tout le monde, toute l'opinion publique, a toujours été convaincu que c'était une erreur judiciaire et qu'en fait il aurait dû être décapité, que c'était bien lui. Et quand, 6 ans après le procès, il a voulu publier le Salaire de la peur, chez l'un des meilleurs éditeurs du monde, Julliard...
Le vôtre
René Julliard lui a fait comprendre que s'il s'appelait Henri Girard, bon, ça ferait peut-être un peu de publicité au livre, mais de la publicité un peu sombre, puisque tout le monde se rappelait encore que c'était le type qui avait tué toute sa famille pour hériter de leur fortune.
Alors ce Henri Girard, coupable idéal aussi, parce qu'à 24 ans, il est très singulier, un fantasque, dépensier, mœurs dissolues. Est-ce que vous avez eu de manière immédiate de l'empathie pour ce personnage que tout accable ?
Non, j'ai pas eu d'empathie. Alors ce qui n'a pas déclenché ma sympathie, c'est pas sa jeunesse, parce qu'à 24 ans, je sais pas si vous connaissez Antoine Decaune, mais c'est le même genre.
Non.
il a eu une jeunesse un peu turbulente, voilà, mais Maurice Garçon, d'ailleurs, au procès, a dit, oui, bon, il sortait avec ses amis, il rentrait tard, il faisait du bruit chez lui, il dépensait de l'argent avec les filles. C'est pas la débauche la plus sordide, hein. C'est après, par contre, dans sa vie, là, il était très, donc après, dans sa vie d'adulte, hein, il était très provocateur, très cynique, même un peu violent, il faisait des trucs, avec un pote à lui, qui est l'écrivain Louis Calafert, il faisait des trucs vraiment très violents dans Paris, hein, il faisait vraiment les fous, donc là, il n'est pas très sympathique. Donc non. Et puis d'autant que moi, comme mon ami m'en a parlé, j'ai enquêté modestement, hein, depuis chez moi, c'est-à-dire sur Internet, j'ai acheté des livres, des journaux d'époque, j'ai lu le compte-rendu du procès, j'ai dit à mon pote, j'ai dit au bout de 3 mois, j'ai dit je peux pas écrire le livre, c'est lui, c'est sûr. Mmh. Moi j'étais persuadé que c'était lui, et qu'il avait fait parce que son père et sa tante c'était vraiment des bonnes personnes, quoi. Le père c'était un bon gars, bourru, machin, la tante c'était une vieille fille un peu pingre, mais bon, gentille, la vieille bonne, n'en parlons pas. Il a massacré tout le monde, parce que j'ai acheté une serpe d'époque sur eBay. C'est un truc énorme, mais c'est énorme, c'est lourd. Quand on l'a dans la main, on se dit qu'il y a un mec qui l'a levé, ne serait-ce que pour la lever, déjà on a peur quand on la lève, et qui a frappé 30 fois sur le crâne de quelques innocents. Donc c'est vraiment un truc de sauvage, de fou furieux, quoi. Tout ça pour de l'argent, bon, il m'était pas sympathique.
Vous parliez de la jeunesse dissolue d'Henri Girard, et alors ça m'a un peu alerté, parce que j'ai découvert en lisant le livre que Henri Girard connaissait mon père.
Alors,
il faisait partie de la bande, Yvan Edouard, André Héléna, Christiane Rochefort, qui se fréquentait dans l'île Saint-Louis au début des années 50.
Dans les années 50, il était l'hôtel de Luynes ou du duc de Luynes, j'ai pas réussi à savoir exactement comment ça s'appelait, mais il faisait un peu les fous sur l'île Saint-Louis, quoi.
Ça veut dire que mon père aurait eu aussi une jeunesse dissolue avant de me concevoir.
Non, mais je pense qu'il y a des trucs dont il faut que vous parliez, hein. Parce qu'il y a des vraies enquêtes à Bob.
Bon, mon prochain livre s'appellera Decaune.
Les
gens
saga.
Connaissent, c'est un truc un peu connu, quoi.
Non, puis j'ai découvert aussi la présence de mon ami, mon meilleur ami, Laurent Chalumeau, que vous écoutez parler de Gérard de Villiers dans une émission de radio en roulant vers Périgueux.
Ouais.
C'est vous dire, s'il y a des points d'accroche entre nous deux.
Parce que Gérard de Villiers, Georges Arnaud a soi-disant avoué à Gérard de Villiers à la fin de sa vie qu'il avait tué tout le monde. Mm-hmm. Je crois que c'était une sombre blague d'un goût un peu douteux. Et la première fois que Gérard de Villiers en a parlé, c'était dans une voiture avec Laurent Chalumeau, une émission pour Canal Jimmy, je crois, qui s'appelait La Route.
Sur La Route.
Et donc, sur La Route. Et donc, j'avais contacté Laurent pour savoir s'il avait gardé les enregistrements et il a fouillé dans ses archives obscures et il l'a trouvé.
Combien de temps vous avez enquêté pour aboutir à ces quelques 634 pages et à quel moment vous avez réalisé que tout n'était pas aussi limpide qu'annoncé ?
Alors, combien de temps en tout ? Ça a dû me prendre un an et demi, quelque chose comme ça, ce qui paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment du 7 jours sur 7, du matin au soir, et même parfois du soir au matin, ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Et en fait, non, c'est tout bête, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tant que je suis resté à Paris, ici, comme quoi ça peut servir de bouger, j'étais convaincu que c'était lui, vraiment. Et puis, enfin convaincu, non, j'avais quelques doutes, en particulier le fait qu'il était défendu par Maurice Garçon, qui était le meilleur ami du père, d'une des victimes. Et donc, bref, je me suis dit, je vais aller voir, les archives étaient conservées à Périgueux. Je me renseigne pour savoir si j'ai le droit de les consulter, parce qu'il y a des délais de ces 75 ans, et on me dit aux archives de Périgueux, non seulement vous avez le droit, mais vous serez le premier depuis 1943. C'est quand même excitant, ça suffit à me faire louer une Opel Meriva. Et j'ai réservé cette nuit à l'hôtel de Périgueux. Et je me suis dit, voilà, je vais consulter ça, je serai le premier, ça vaut le coup. Si je trouve rien, si je reviens en étant sûr que c'est lui, bon, tant pis, j'aurais passé une semaine à Périgueux, tranquille, loin de tout. Pardon pour les périgueux. Et si je trouve, ben voilà. Et donc j'ai passé une semaine là-bas et j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Je cherchais des tout petits détails qui avaient été oubliés. Une goutte de rosée, une toile d'araignée, des choses comme ça, et j'ai trouvé.
Je voudrais revenir et finir sur une note personnelle, parce que votre livre, c'est aussi l'histoire d'une relation entre un père et son fils. Vous qui écrivez si facilement sur vous, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écrire sur votre fils et vous ?
Alors là, je suis content parce que j'ai enfin réussi. Mon fils a 17 ans, il va passer le bac là. Donc depuis 17 ans, à chaque livre, j'essaye de parler de mon fils. J'ai envie, c'est vraiment évidemment la chose la plus importante dans ma vie. J'ai essayé quand il est né, j'ai essayé quand il avait 2 ans, 8 ans, 10 ans. Et moi, pour écrire, j'ai besoin d'un peu de recul, d'un peu de, peut-être pas de détachement, mais en tout cas d'un peu de distance pour ne pas être trop englué dans ce que je raconte. À chaque fois que j'ai essayé de parler de mon fils, je devenais d'une mièvrerie. Alors, mais vraiment, je pataugeais dans de la compote de sentiments et je me relisais et je me disais non, c'est pas possible, donc j'enlevais. Là, j'ai découvert à Périgueux, donc entre autres, une relation assez incroyable entre Henri Girard et son père. Toute leur correspondance a été gardée dans le dossier, enfermée depuis 75 ans et moi je l'ai lu, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de parler de mon rapport avec mon fils. Et pour éviter de sombrer, de m'engluer dans le neuneu, j'ai raconté, il m'en veut un peu d'ailleurs, j'ai parlé de mon fils qu'à travers des anecdotes qui ne mettent pas terriblement en valeur.
Thermomètre.
Voilà, il a passé trois quarts d'heure avec un thermomètre dans les fesses en attendant que ça fasse bip bip. Alors que le thermomètre était malheureusement éteint.
Et vous le répétez à la radio.
Et je le répète à la radio, mais bon, tout son lycée, toutes les filles de son lycée, tous ses profs l'ont lu. Il me dit, heureusement que j'ai une meuf, parce que sinon ça serait mort pour moi. Et donc voilà, il peut pas traverser la cour sans qu'on lui dise, t'as pris ta température, etc. Pardon, mon fils.
Est-ce que vous pensez qu'en lisant La Serpe, votre dernier livre, votre fils renoncera définitivement à l'idée de se débarrasser de vous?
Alors,
après l'histoire du thermomètre, c'est pas sûr.
Non, mais j'ai un coup de chance incroyable, c'est que mon fils ne lit pas mes livres. Et il lit beaucoup, mais il lit pas mes livres. Je pense que c'est par pudeur ou quoi, mais lui me dit que c'est parce que... Il dit oui, la littérature, c'est la découverte. Toi, tu en parles tout le temps, donc je sais tout. Le gros avantage, c'est que quand je vais quitter cette terre, dans 50 ans, mon fils aura des milliers de pages de son père qui lui parle, quoi.
Au moins 20 000.
Voilà, au moins 20 000, j'espère.
Malheureux.
Et donc, s'il a envie de se débarrasser de moi à ce moment-là, ce sera trop tard.
Bon. Très bien, Philippe Génada, la fin de l'émission approche. Et c'est l'heure pour moi de descendre à la cave à chercher le dernier vinyle de l'émission. J'ai envie de vous faire découvrir une pépite. C'est Eddie Mitchell qui reprend Sonny. Allez, je vais chercher ça. Parce que c'est lourd. Bah, pourquoi ça sent la cheminée ici ? Bah, Henri, mon cochon, mais qu'est-ce que tu fais au coin du feu dans ton tout petit rocking chair? Et pourquoi t'as mis des lunettes? Pour lire? Non mais, c'est trop mignon ça. C'est l'émission qui t'a donné envie de lire? Oui, et Philippe Génada? Non mais c'est génial, c'est la magie de la pop culture ça. Et en plus tu lis quoi? Les trois petits cochons? Oh, je suis trop coton. Mais il fallait me demander, j'en ai plein des livres à te prêter. Et tu sais, ce qui est à moi est à toi, hein. Non mais attends, même mieux, je vais te la raconter, moi, cette histoire. Tiens, donne-moi le livre. Donne-le, Henri, donne. Mais si, donne. Et donne, allez. Alors, attends. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, La maman a... Non mais attends, c'est quoi ça? Les trois grosses cochonnes? Non mais Henri, t'es sérieux là? Bon, hé là-haut, balancez le disque, j'ai une discussion à avoir avec mon cochon, moi. Allez! Non mais sérieux, c'est quoi ce délire là? Je t'accueille, je te donne tout, toi tu mates des magazines porno de truies en bikini? Non mais tu fais chier, je passe pour qui, moi? Attends, déjà la dernière fois.
Ce matin encore, c'était l'hiver. Sonné. Depuis que tu es là, le ciel est plus clair. Il y a du soleil sur les murs, sur les toits. Le printemps est venu avec toi. Et tu m'aimes toujours, mon amour. Sonné. C'est déjà la fin de ma longue nuit. À nouveau pour moi, le soleil luit. J'ai eu des mauvais jours dans le vent et la pluie. Oh, j'avais si peur que tu m'oublies. Mais tu m'aimes toujours, oh, sois mon amour.
Sonny par Eddie Mitchell, un poil surjoué, enfin surchanté, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est un morceau de 1968, extrait de l'album 7 Colts pour Schmoll. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Merci Philippe Janeda d'être passé dans notre studio.
Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir et c'est sincère.
Plaisir partagé d'avoir passé cette heure en votre compagnie. Je rappelle que la SERP est toujours disponible chez Julliard et que c'est tout à fait indispensable. Merci à l'équipe de Pop Hop Hop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Tristan Gratalon, Aurélien Ezouan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire. Demain dans Pop Hop Hop, le réalisateur Yann Kounen. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr et si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos lecture sur YouTube, bien, abonnez-vous à notre podcast.